Sa parole, pas tellement pour nous apprendre de choses nouvelles, mais pour nous motiver. Nous avons tous besoin de motivation. Nous savons combien la motivation est importante pour les enfants, mais dans beaucoup de manières, nous sommes nous-mêmes comme des enfants. Et il y a dans la parole de Dieu beaucoup de motivation pour venir vers Dieu. C'est à nous de les prendre, de les utiliser pour notre bien. Et Dieu est un Dieu qui est prêt. Et nous savons qu'il est près de nous. Et notre expérience de sa proximité envers nous est toujours à travers ses paroles. Son esprit travaille à travers sa parole. Et c'est les deux ensemble qui viennent et qui touchent notre esprit, qui répondent donc envers Dieu dans la prière, qui crée cette communion que nous désirons nous-mêmes. Ça nous donne une joie en tant qu'enfants de Dieu, mais il faut aussi se rappeler que Dieu le désire. Dieu lui-même désire avoir la communion avec nous. Et donc, il est dit par exemple en Éphésiens que Christ est venu prêcher la paix à ceux qui étaient loin. Comment est-ce qu'il est venu? Eh bien, à travers sa parole, à travers la prédication de sa parole et l'inspiration de sa parole. Et quand vous avez la Bible, vous avez le chef-d'œuvre de l'Esprit de Dieu. Nous pensons à l'œuvre de Jésus-Christ, nous pensons souvent à la croix. Quand nous pensons à l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons penser à la Bible et puis à ce qu'il fait dans les cœurs des hommes et des femmes. La régénération, la communion, tout ce qui crée en nous pour répondre à sa parole. Et en Luc chapitre 10, aujourd'hui encore juste pour nous motiver un peu plus, j'aimerais regarder cette histoire que vous connaissez, qui parle de le ministère de Jésus à Béthanie, chez des amis très proches. Il y a ses deux sœurs et puis ce frère qui s'appelle Lazare. Et il semble que Jésus venait très souvent chez eux. Donc ils avaient un ministère envers le Seigneur. Jésus appréciait leur ministère. Et lui-même avait un amour particulier pour cette famille. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Il a pleuré pour la souffrance, certainement qu'amène la mort, pour ceux qui le connaissent, mais surtout aussi pour ceux qui le témoignent. Et ici, Jésus est en chemin et il vient chez eux. Donc c'est au verset 38. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc 10, 38 jusqu'à la fin, 38 à 42, je crois. Quelqu'un veut bien lire ça? Viviane? Merci. Voilà, merci. Ok, donc il y a très évidemment un contraste entre ces deux sœurs. Que le Saint-Esprit désire que nous voyons. Et il y a une utilité aussi pour nous aujourd'hui en lisant cette histoire. Deux sœurs qui aiment vraiment le Seigneur. Deux sœurs qui donneraient chacune leur vie pour le Seigneur, s'il en fallait. Ce sont, on va dire, de vraies croyantes, des chrétiennes. Mais il y a quand même un contraste, à ce moment en tout cas, dans leur vie, face à Jésus. Et Jésus dit très clairement qu'il y a une bonne part qui a été choisie, la bonne part qui a été choisie par Marie, ce que veut dire que ce qu'a choisi Marthe est moins bonne. Je crois que c'est une conclusion que nous pouvons tirer facilement, que ce que Marthe a choisi n'est pas mauvaise. Son choix n'est pas mauvais, mais sa part qu'elle a eue est moins bonne que celle de Marie. Alors, donnez-moi un mot. On va essayer de trouver un mot pour définir chacune de ses sœurs. On commence avec Marthe. Donnez-moi un mot. Après, on peut avoir plusieurs personnes qui nous donnent un mot, mais s'il fallait choisir un mot pour décrire à Marthe dans cette situation, ce serait quoi ? Agité ou activisme ? C'est bien. Autre chose ? Oui ? Affairé ? Ah, tous ces mots commencent avec A, ah, c'est bien. Et un autre ? Inquiète. Dans l'engagement, tu dis ? L'engagement, oui. Engagé. Ok. Pardon ? Ah bien, bon accueil, oui. Accueillante. Ouais. C'est bien. Oui, Laurent. Préoccupé. Je sais pas, hein, à toi de me dire. Hein. Je vais pas te donner des leçons de français, moi. D'accord. Bon, ça c'est Marthe. Ok. Donc on va laisser Marthe là de côté. On va revenir et parlons de Marie. Est-ce qu'on peut donner comme adjectif pour Marie ? Ok, elle écoute. Assise. Calme. Attentive. Oui. Fais attention, ça ? J'ai pas compris. Ah, précaution. D'accord, merci. Pardon, avec le masque, parfois. Oui, Sheila. Humble. Tranquille. Oui. Pardon. Ah, attentif. C'est moi qui n'ai pas attentif. Très bien. Jocelyne, tu as dit quelque chose ? Ah, il a dit contraire de Marthe. Pas contrarié, mais contraire de Marthe. Oui, il y a vraiment ce... Mais regardons donc dans le texte. Trouvez le mot dans le texte pour le verset 39. Quel est le mot, s'il fallait entourer un mot qui parle de Marie, ça serait quoi ? Écoutez, oui. C'est un verbe. Et je suggère même que vous entourez ce mot, écoutez, écoutez. Et puis dans le verset 40, le contraste avec Marthe, c'est quel mot ? Occupé. Ouais. Moi j'ai le mot occupé. Vous pouvez même, si vous entourez ces deux mots, comme ça la prochaine fois ces deux mots vont ressortir même du texte. Un qui écoutait et l'autre qui était occupé. Alors, pensons un peu à ce contraste. Un est un verbe, écouter, et l'autre est un adjectif, occupé. Donc, Marthe qui écoutait, non, pardon, Marie qui écoutait et Marthe qui était occupé. Alors, souvent, nous nous plaignons de nos vies, que nous sommes trop occupé. N'est-ce pas? J'ai jamais entendu quelqu'un qui se plaignait qu'il écoutait trop le Seigneur. Mais souvent, dans nos vies, nous sentons que nous sommes très occupés. Et j'ai regardé les différentes traductions, il y a trois mots différents pour ce mot qui parle de Marthe, qui reviennent. Occupé, c'est l'un. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre au début du verset 40? Distraite, ouais, on dit distraite comme ça. Ok. Et puis j'ai aussi trouvé le mot affairé. Donc, ça c'est le titre, si vous voulez, l'étiquette que la Bible donne à Marthe. Elle est distraite, elle est affairée, elle est occupée. Et si quelqu'un disait ça de nous, si Dieu disait ça de nous, et je suis convaincu que pour avoir une bonne relation avec le Seigneur, il faut un moment dans la journée où nous l'écoutons sans être occupés. C'est bien d'écouter, moi j'écoute souvent des sermons, j'ai des oreillettes, si je fais la vaisselle ou autre chose, j'écoute souvent des sermons, dans la voiture aussi, ça c'est bien, on peut écouter aussi la parole lue, si vous êtes dans les transports, vous mettez, écoutez juste la parole, ça, même si ça ne reste pas tout, je me dis, mais il y a quelque chose qui reste, et c'est déjà mieux que de rien faire. Mais il faut un moment avec le Seigneur, tous les jours, comme notre pain quotidien. Et c'est Jésus lui-même qui a fait ce lien. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut ce moment où nous mettons tout de côté pour entrer dans sa présence et pour écouter sans être distrait, sans être affairé, sans être occupé à autre chose. Et nous vivons dans une société où on a tendance à faire plusieurs choses en même temps, n'est-ce pas? Surtout avec le téléphone, même les réseaux sociaux, on le fait en faisant autre chose, hein. Donc on est dans le bus et je vois des gens en train de regarder des photos, mais c'est, voilà, souvent on n'est pas bien attentionné à une seule chose au même temps. Même parfois quand je prêche, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont ailleurs dans leurs pensées. Et c'est facile pendant le temps avec le Seigneur, c'est Satan parfois qui nous met des pensées. Ah, j'ai pas fait ça. Ah, il faut faire ça. Je veux m'occuper d'autre chose. Au lieu de passer ce temps avec le Seigneur. Et c'est qui le grand perdant? C'est moi le grand perdant. Je n'ai pas la bonne part. Je suis là comme Marthe était là. Elle entendait Jésus, certainement. Hein. Elle entrait dans la salle, elle sortait, elle avait Jésus dans sa maison, elle était occupée à faire de bonnes choses, même pour le Seigneur, mais elle n'avait pas la bonne part. Et sa vie en souffrait. Parce qu'on voit dans son cœur qu'elle devient agitée, elle devient même un peu amère, parce que c'est elle qui travaille, pas Marie, jusqu'au point où elle va interrompre Jésus dans son discours, le corriger et lui dire ce qu'il doit dire à quelqu'un d'autre. Imaginez l'audace de dire, Seigneur, tu dois dire à Marie de se mettre au travail. Donc là, ce n'est pas seulement Marie qui n'agit pas comme il faut, c'est en fait Jésus qui n'agit pas comme il faut, c'est Jésus qui doit corriger sa manière d'agir, Jésus est trop calme. Et vous voyez, ses valeurs ont été affectées par ses préoccupations. On peut dire que notre préoccupation révèle nos valeurs, mais nos valeurs aussi ont un impact sur notre préoccupation. On peut mettre la télé devant un petit enfant parfois, et il y a peut-être beaucoup de choses à faire, c'est peut-être l'heure de partir en voyage. L'enfant s'en fiche, il regarde, il ne pense pas à autre chose. Et il y a une certaine simplicité que le Seigneur désire en nous. Chaque jour, on a du temps mis à part pour le Seigneur. Alors, je veux vous demander, mes amis, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez un temps où c'est avec le Seigneur? Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas l'Internet, sauf si on utilise Internet pour la Bible, mais je veux dire, il n'y a pas le courriel, il n'y a pas les affaires, les autres bonnes affaires même de la vie. Mais c'est un temps mis à part pour le Seigneur. Si nous voulons croître dans notre communion avec lui, il faut faire un choix comme Marie. Elle a choisi. Vous voyez, Jésus le dit bien dans le dernier verset du livre, du chapitre. Marie a choisi la bonne part. Quelque part, il y avait ce choix. Parce qu'elle sentait probablement le jugement de sa sœur. Mais elle a fait le choix quand même, parce qu'elle avait besoin d'entendre l'enseignement de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que dans nos vies même, Dieu nous met parfois face à ses choix. Il faut choisir entre mes affaires et la communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui va venir en premier? Et parfois le choix est difficile à faire. Parfois ça demande du sacrifice même. Et c'est l'œuvre du Seigneur dans chacun de nos vies pour nous montrer ce qu'il faut faire. Mais je suis sûr que quand vous choisissez la part de Marie, vous choisissez la bonne part. La bonne part. Donc qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce qui peut vous aider à choisir comme Marie tous les jours? Et une première chose que je dirais, et là c'est juste comme conseil hein, qui m'a été donné, que j'ai vécu aussi dans ma vie, c'est faire de cela une habitude. Une habitude. Comme on se lève et on mange, comme on se brosse les dents, hein, j'espère que chaque nuit vous ne dites pas, aujourd'hui est-ce qu'il faut brosser les dents? Oh, peut-être pas, est-ce que j'ai le temps? Attends, je vais vous regarder, est-ce que j'ai le temps? Non, ce soir je suis trop fatigué. Oui, il y a des choses comme ça où c'est tellement l'habitude qu'on s'y met à le faire. On mange, même si on est très très occupé, on va manger. Parce qu'on apprécie l'importance. Et les habitudes peuvent être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Par exemple, il y a une famille qui ont l'habitude de venir au culte le dimanche matin, comme beaucoup d'entre vous. C'est une bénédiction d'avoir cette habitude. Parce qu'il y a d'autres personnes, tous les dimanches matins, ils doivent faire le choix. Ils se sentent, est-ce que je suis trop fatigué, est-ce que j'y vais ou est-ce que je vais pas? Et c'est une lutte interne. Dans leur esprit, dans leur cerveau, est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas? Parce que ce n'est pas une habitude, donc ils doivent se forcer à le faire. Mais il y a d'autres où c'est juste c'est une question d'habitude. C'est comme la ceinture pour l'enfant. Hein? Simeon est petit, il entre, et on met une ceinture des deux épaules, on l'attache entre les jambes. Il est vraiment coincé dans ce siège. Mais il a l'habitude, et donc quand il monte dans la voiture, il s'assoit. C'est juste, ça fait partie du trajet. S'il veut partir, il aime bien partir dehors, mais ça fait partie. Et déjà, tout petit comme il est, il a ses habitudes. Et donc, les habitudes peuvent être nos pires ennemis aussi. Si on prend l'habitude après de se mettre en colère ou de toujours répondre d'une certaine façon, ou dès que quelque chose arrive, de se donner à une certaine convoitise ou à un certain péché, ça devient ancré en nous. Mais c'est un peu comme conduire la voiture, ceux qui ont le permis. Vous vous rappelez les premiers jours de conduite, toute votre attention était sur le volant, qu'est-ce que je fais avec le pied. C'était hyper compliqué. Et après quelques temps, quoi, on peut le faire tout en discutant avec quelqu'un. On entre, boum, on met la radio, on sort. C'est une habitude. C'est une habitude. Ou faire le vélo, ça devient une habitude. Ou il y a ces pilotes d'avion qu'ils ont tous ces boutons, mais bon, pour eux, ce n'est rien. Ils ont appris, ils ont l'habitude. Et si vous n'avez pas cette habitude déjà, je vous encourage de faire tout ce qu'il faut pour en créer une habitude en 2021. D'être avec le Seigneur, avec sa parole. Donc, pour chaque habitude, il faut du temps. Ça ne devient pas une habitude de jour au lendemain. Il y a des gens qui disent, si vous le faites 31 jours après... Mais créer une routine. Moi, je me lève, je me douche, je descends, je fais mon café et j'ai ma place sur le canapé. Et puis René descend, elle a sa place au même endroit. Et avec nos enfants les plus âgés, ils ont commencé le matin à avoir cette habitude. Ils ont chacun leur place aussi, ils viennent. Peut-être vous faites déjà comme ça, mais vous pouvez faire comme ça. Créer vos petites habitudes, comme ça le matin vous êtes tellement fatigué, mais vous pouvez le faire presque endormi. Vous arrivez jusqu'à votre place. Voilà, donc c'est vous qui devez choisir que c'est la bonne part. Sinon, ça va être une lutte tous les matins, tous les jours. Mais si vous êtes convaincu que ça, c'est la bonne part, vous allez mettre le travail qu'il faut à rendre cela une habitude. Et puis, je dirais, deuxièmement, donc premièrement, faire de cela une habitude. J'essaie de le dire, c'est s'affaire à nos attentes. Quelles sont nos attentes? Bien gérer nos attentes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je désire en venant? Pourquoi je suis là? Quelles sont mes attentes? Et en réfléchissant à cela, je me suis dit, il y a le danger dans les deux sens. Il y a le danger d'avoir des attentes qui ne sont pas assez haute et importante. Et par cela, je veux dire que, bon, je viens, je lis, puis c'est fait. Hein, avec les enfants, souvent, au début, c'est ça. Tant que parent, on essaie, OK, il faut lire au moins un chapitre. Boum, je l'ai fait. Ah oui, qu'est-ce que tu as lu? Un psaume. C'est fait. C'est comme si... J'ai payé ma dîme, hein, j'ai fait mon... Et puis c'est fait. Il n'y a aucune attente, on a l'impression qu'il n'y a aucune attente à part finir. Et puis c'est bon. Et c'est un peu normal avec un enfant. Il faut croître dans ces choses. Même un enfant qui commence à lire, au début il dit, mais à quoi ça sert de lire? Ma vie est déjà heureuse, je n'ai pas besoin de lire. Et c'est le parent qui doit le forcer. Non, tu sauras plus tard que tu as besoin de lire. Donc, il ne faut pas avoir des désirs trop basses, trop petites. Quelle est notre attente en venant envers le Seigneur? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient le matin à l'esprit? Des idées? Pardon? Okay? Être enseigné. Très bien. Donc, je veux être enseigné. Oui.
La présence.
Ok. Venir à la présence de Dieu, c'est ça? Sentir la présence de Dieu. Oui. Oui, très bien. Pardon? S'attendre, c'est ça? S'attendre à une promesse de Dieu dans la journée, ou pour la journée. D'accord? Donc, entendre de Dieu. C'est bien. Tatia? Ok? Être fortifié. Et encouragé. Très bien. Oui, Lydie? Pardon. Avancer et persévérer. Très bien. Oui, Sheila?
La sanctification.
Chercher la sanctification. Oui, Fanny?
Préparer son âme pour le salut éternel.
Ok, préparer son âme pour le salut éternel. Très bien. Autre chose? Ok, bon, on commence ici et puis là-bas. Vas-y.
En demandant sa volonté, chercher sa
ok, chercher la volonté de Dieu. Très bien. Oui, Nassira.
Passer du temps avec Dieu.
Très bien. Ça serait bien de faire une petite liste pour vous-même. De donner du sens à ce temps. Voilà, c'est pas là juste pour me réveiller ou pour planifier la journée. J'ai un but, il faut un but. Et je vous encourage de penser à ceci, que c'est quelque chose que nous offrons à Dieu. Et quand nous venons ici, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? C'est pas compliqué hein, comme question. Ok? Oui, notre louange, notre adoration. Recevant un royaume inébranlable, dit Romains, Hébreux 12, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu, on donne quelque chose à Dieu, en rendant à Dieu quoi? Un culte ou une adoration qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Et le matin, quand je viens devant Dieu, c'est pour rendre une adoration à Dieu. Je viens comme Caïn et Abel. Je viens devant Dieu. Je viens comme Marie et Marthe. Je viens devant Christ. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je lui donne une adoration. Je suis un adorateur, n'est-ce pas? Si je suis chrétien. Et il y a des gens dans des fausses religions. Tous les matins, ils vont se lever, ils vont aller, ils vont allumer un cierge ou ils vont se prosterner devant une idole. Tous les jours, ils vont faire cela, ou ils vont faire des pèlerinages. Ben, moi aussi, je me lève et je vais devant mon Dieu pour lui offrir mon adoration. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je vais devant lui par l'esprit, grand E, dans mon esprit, petit E. Mais je veux lui donner quelque chose. Je veux lui rendre un culte qui lui soit agréable. Et cela peut-être pourra vous encourager. Vous pouvez donner quelque chose à Dieu. On dit, mais je suis trop pauvre, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Marthe voulait donner quelque chose à Dieu, n'est-ce pas? Elle voulait donner quelque chose à Dieu. Son service n'était pas de prendre, c'était de donner. Elle donnait son énergie, elle donnait sa compétence, elle donnait son temps. Elle voulait donner cela à Dieu et c'est une bonne chose qu'elle voulait donner. Mais Marie a choisi la bonne part. Parce qu'elle aussi, et Marthe ne comprenait pas cela, mais elle aussi donnait quelque chose à Dieu. On dit, prête-moi... prêter son attention, hein. C'est donner, même l'attention on le donne à quelqu'un, on donne son amour, on donne son affection, on donne sa louange, on donne son cœur, tout ça sont des offrandes que nous donnons à Dieu, et donc quand nous sommes là devant lui pour écouter, qu'il nous enseigne, et puis pour répondre dans la prière, c'est un culte, C'est un culte. Vous avez un culte tous les matins. Et nous sommes constamment des adorateurs. Nous pouvons adorer Dieu toute la journée. Mais il faut aussi ce temps. Je ne suis pas occupé, je ne suis pas distrait, je ne suis pas affairé. J'écoute et je me donne à Dieu. Imaginez si en 2021, tous les matins, commençait par chacun de nous notre culte personnel et un culte que nous rendons à Dieu. Si peut-être il faut l'écrire, il faut avant de commencer, vous pouvez avant de lire, mais vous pouvez avoir un verset écrit sur une petite carte. Moi, j'ai une liste de versets, donc je prie pas toute la liste, mais je choisis souvent un ou deux versets. Par exemple, il y a « Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi » ou « Fais-moi connaître ta bonté le matin afin que tout le jour mon cœur puisse se réjouir. » Je veux sentir ta bonté. Il y a des prières comme ça. On peut commencer avec une courte prière. Seigneur, aide-moi maintenant dans ce temps à te rendre un culte. Et ça donne de l'importance après à ce que nous faisons. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez donner à Dieu. Et qu'il désire. Donc il ne faut pas avoir des attentes trop petites. Ce n'est pas une question simplement de lire. C'est une question d'offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable. Je peux, et tout de suite, pour moi en tout cas, hein, ça élève l'importance de ce que je suis en train de faire. Il veut mon attention à part entière. Et il promet de répondre à cela. Et puis je dirais, il ne faut pas non plus avoir des attentes irréalistes. Dans le sens que ce n'est pas ce que le Seigneur nous promet pour tous les jours. Il y a des moments dans nos vies où nous sentons vraiment la présence du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que nous devons désirer. Mais si ça devient le gage d'un culte offert à Dieu, je vais me décourager rapidement et peut-être même abandonner parce que je n'ai pas ce que je cherchais. Et il faut savoir, et les hommes de Dieu l'ont dit depuis des siècles, que la relation avec votre Bible est une relation à long terme. À long terme. Comme avec une personne. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, impossible de tout savoir sur leur vie. Et même s'ils nous racontent toute leur vie, même s'ils nous donnent une biographie, voici la biographie de ma vie, elle est 600 pages et je lis tout, ça ne veut pas dire que j'ai une relation avec cette personne. Donc je peux connaître des faits sans vraiment avoir une relation proche avec la personne. Et la Bible, c'est Dieu qui nous reparle ses vérités. Chaque fois que je lis la Bible, c'est l'Esprit qui parle dans le présent. Et il ne faut pas s'attendre que ce soit quelque chose d'automatique, mais c'est quelque chose qui se nourrit, qui grandit. Donc on voit dans les psaumes, on voit des hauts, mais on voit aussi des bas, hein, en lisant des psaumes. On voit l'homme de Dieu qui est très proche du Seigneur, mais aussi on voit l'homme de Dieu qui se sent abattu. Parfois il dit, mon âme est dans la poussière. Bon, ça c'est pas quelque chose qu'on désire, mais il a vécu. Lisez que le psaume 119 et vous allez voir, sa vie est fluctuante, mais il cherche toujours à être ranimé, ravivé par Dieu. Il le désire et il persévère même dans ces moments où il ne le ressent pas. Par exemple, je vais juste vous lire un verset dans le psaume 119 que je considérais cette semaine. Je crois que c'est le 32 ou 31 peut-être. Il dit, je commence au verset 28. Mon âme pleure de chagrin, Vous voyez, c'est pas très beau au début. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Vous voyez, ça c'est le culte personnel. Je place tes lois sous mes yeux. C'est le choix qu'il fait. Je m'attache à tes préceptes. Là, on voit la persévérance. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Vous voyez sa persévérance. Il commence, cette partie en tout cas, en pleurant, mais il continue à persévérer. Je mets quand même tes commandements sous mes yeux. Je vais courir dans la voie de tes statuts. Je m'attache à tes préceptes. J'ai besoin de toi, Seigneur, et je persévère. Et souvent, c'est comme... Bon, avec la langue française, je disais souvent, c'est comme des couches de peinture. Il fallait que, pour bien apprendre un mot, il faut que je l'apprenne au moins trois fois. La première fois, je l'apprends, je l'oublie, c'est sûr. La deuxième fois, je me dis, ah oui, il me semble que j'ai entendu ce mot avant. Et puis, mais avant, ça me décourageait. Mais je dis, non, il faut que je l'oublie pour arriver à la troisième fois. Et puis, ça reste. Et les enfants, comment est-ce qu'ils apprennent à parler? C'est comme ça, hein, c'est la répétition. Et comment est-ce que vous allez commencer à profiter de la parole de Dieu? C'est pas en ouvrant pour la première fois la Bible et en lisant un chapitre. Mais il faut ouvrir la Bible pour la première fois et lire un chapitre. Vous voyez, il faut vous efforcer à faire cela. Même si vous lisez parfois des parties où vous dites, je sais pas, j'arrive pas à tirer un enseignement de cela. C'est pas grave, je rends un culte à Dieu en le lisant, quand même, avec humilité. Et j'entendais une citation de Newton qui a écrit Amazing Grace, que beaucoup de gens connaissent. Il dit, ma lecture d'aujourd'hui va éclairer ma lecture d'hier et va me préparer pour ma lecture de demain. J'aime bien cette façon de voir les choses. C'est pas comme quand je vais au magasin, je vais avec une liste, je prends ce que je veux et je repars. Non, c'est une relation. Ma lecture d'aujourd'hui, peut-être c'est juste pour me préparer pour ma lecture de demain. Et la beauté avec la parole de Dieu, c'est quand vous relisez, vous commencez à voir de plus en plus de choses. C'est comme les dimensions. Avant c'était 2D, ça devient 3D. Commencer à voir, ah oui, je relis maintenant, après avoir lu Romains, je relis maintenant Deutéronome, j'ai Romains un peu dans la tête, Deutéronome est beaucoup plus développé, même dans ma pensée, parce que j'ai lu d'autres parties de la Bible, vous voyez? Donc, il faut apprécier la loi, même si c'est difficile de lire parfois Lévitique, Nombre, mais quand vous lisez tout ça, vous appréciez mieux, vous comprenez mieux même l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut faire confiance, c'est Dieu qui décide. Hein. C'est, quand on va à l'école, on ne dit pas, nous les élèves, on va choisir le programme. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, ça, bah, aucun sens qu'on apprend ça. On a besoin de ça. Non, ce n'est pas les élèves qui décident du programme. Et c'est la même chose, nous sommes des élèves. Ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, franchement, je n'ai pas besoin de Lévitique, je n'ai pas besoin de Seigneur. Ah oui? Pourquoi t'as pas besoin? Ben, je l'ai lu une fois, aucune utilité pour moi. Ah oui? Oui, je sais. Comment? Ben, je l'ai lu. Ah oui? Et tu sais ça? Vous voyez l'orgueil? Et y a certainement des personnes, j'imagine que plusieurs personnes ici, que jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore lu toutes les paroles inspirées de Dieu. Vous pouvez pas dire j'ai lu toute la Bible. Et c'est vrai, la Bible est grande. Hein? Et c'est un long chemin. Mais vous pouvez commencer aujourd'hui à prendre le premier pas et à marcher et à persévérer et à persévérer. Et c'est dans la persévérance que vous allez commencer à apprécier encore mieux et mieux vos cultes personnels. C'est pour ça que je dis n'avoir pas une vision trop irréaliste du culte personnel. Dans un sens, on va dire... Ça c'est pour ma vie ici. Moi, je veux arriver à la retraite et bien connaître la parole de Dieu pour que quand je la lise, elle me parle encore davantage qu'aujourd'hui. Je lis pas simplement pour maintenant, je lis pour l'avenir. Je veux connaître ta parole. Et donc je reviens là-dessus. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il y a ce planning, par exemple, McShane, je crois que Vincent le faisait avant. Tu fais toujours ? D'accord. Et oui, il y a Myriam qui l'a fait cette année. Donc elle a fini 31, elle m'a montré. Donc c'est une fois l'Ancien Testament, deux fois le Nouveau Testament et les psaumes. Et juste en se levant le matin, elle a pu faire ça. Donc ça ne prend pas énormément de temps. Mais peut-être vous dites c'est trop audacieux pour moi. Ayez un plan. Surtout, ne faites pas comme ça. J'ouvre la Bible et je lis un verset. C'est comme si les gens qui ouvrent le frigo, je vais le manger. Voilà, c'est du ketchup. Voilà, c'est mon déjeuner. C'est pas que le ketchup est mauvais, mais c'est Dieu qui décide le menu. C'est pas mon petit doigt qui décide le menu. C'est pas ma tête non plus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour m'enseigner. Et donc j'approche cela avec une certaine humilité. Bon, il faut qu'on s'arrête. Mais si vous n'avez pas encore commencé, dès ce soir, décidez de votre avenir pour 2021. Qu'est-ce que vous allez faire? S'il faut, je sais que vous avez le temps. Hein? Parce que même ici, le temps que les gens passent, et maintenant ils calculent le temps, hein? Le temps passé. Mais choisissez que vous voulez en 2021 la bonne part. Voilà, deux minutes pour se saluer. Et puis...